1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième rendez-vous consacré au protestantisme et à la laïcité. Nous recevons pour en parler Jean-Paul Willem. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes docteur en sciences religieuses et docteur en sociologie, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études et sociologue des protestantismes. Nous sommes ensemble donc pour parler des rapports qu'entretiennent protestantisme et laïcité. Et aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement nous intéresser à la laïcité dans le milieu scolaire. Je vous poserai d'emblée une première question, Jean-Paul Willem. Dès ses débuts, on sait que le protestantisme a promu la lecture de la Bible. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà voir là se dessiner un projet éducatif protestant ?
Le protestantisme, intrinsèquement, je dirais, est un projet éducatif. Avec son affirmation du sola scriptura, l'écriture seule, le protestantisme a estimé qu'il fallait former les jeunes et les moins jeunes à la lecture, à l'accès aux textes bibliques. De là, la promotion protestante de l'école, de l'instruction, dès le XVIe siècle, avec un Martin Luther qui a préconisé la formation d'écoles pour les garçons et les filles, c'est à noter, dès le XVIe siècle, pour les filles aussi, donc pour que les uns et les autres puissent avoir accès aux textes bibliques. Plus largement, le protestantisme, à travers les siècles, a porté ce souci de l'éducation à travers des mouvements de jeunesse, comme au 19e, 20e siècle, les éclaireurs unionistes, le scoutisme unioniste, les unions chrétiennes de jeunes gens, l'école du dimanche pour la formation, l'éducation populaire le dimanche en Angleterre. Et donc, il y a eu également l'apport de toute une série de protestants dans le domaine de la réflexion pédagogique.
Oui, alors, quelles personnalités protestantes ont marqué l'éducation en France par leur apport ?
Alors, il y a Jan Amos Comenius au XVIIe siècle, et aujourd'hui, un des grands établissements scolaires sous contrat avec l'État à Strasbourg porte le nom de ce grand pédagogue et théologien protestant Jan Amos Comenius. Il y a évidemment Jean-Jacques Rousseau avec l'Émile ou de l'éducation. Il y a Jean-Frédéric Oberlin, le pasteur Oberlin, qui a œuvré en Alsace. D'autres pédagogues comme Pestalozzi ou ensuite Pauline Kergomar, une protestante qui a été à l'initiative des écoles maternelles en France. Un autre protestant comme Gustave Monod à la fin du 19e et au début du 20e siècle, directeur d'enseignement du second degré de 1945 à 1949. Et Gustave Monod qui lança l'expérience de classe nouvelle est créée en 1945, le Centre international d'études pédagogiques de Sèvres. C'est intéressant de voir que c'est un protestant qui a été à l'initiative de ce Centre international d'études pédagogiques.
Il y a eu aussi François Guizot qui est intervenu sur un volet plus politique.
Oui, parce que François Guizot, qui a longtemps présidé la Société pour l'encouragement de l'instruction primaire parmi les protestants de France, créée en 1829, et qui fut ministre de l'instruction publique, et à qui on doit une loi en 1833 concernant l'éducation scolaire primaire, et qui a également essayé d'accueillir le projet de 1882 de laïcisation de l'école publique, avec, disons, une ouverture à cette laïcisation, mais en même temps un souci du maintien de la prise en compte du fait religieux à l'école.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi va consister cette laïcisation de l'école ? Je crois que ça va même jusqu'à ce qu'il y ait un jour libre préservé pour l'instruction religieuse.
Alors effectivement, la loi de 1882 abroge la loi Falloux 1850 qui mettait l'école sous, en fin de compte, l'autorité, l'examen des autorités religieuses. Et donc, la loi 1882 laisse la semaine scolaire libre un jour. C'était le jeudi, ensuite le mercredi, pour que les familles qui le souhaitent puissent délivrer une éducation religieuse à leurs enfants. Et la loi de 1882 supprime l'enseignement moral et religieux, remplacé par l'enseignement moral et civique. C'est très très symbolique, on passe de l'enseignement moral et religieux à l'enseignement moral et civique. Ça évoque aujourd'hui ce qui se développe sous le nom d'enseignement moral et civique dans l'école de la République.
Je crois qu'il y a une personnalité protestante incontournable aussi qui intervient à ce niveau-là, c'est Ferdinand Buisson.
Alors évidemment, le grand Ferdinand Buisson, qui fut directeur de l'enseignement primaire de 1879 à 1896, qui continua l'œuvre de Jules Ferry, qui sera entouré d'autres protestants comme Félix Pecaud, Jules Steg, Élie Rabier, qui dirigea l'enseignement secondaire. Donc il y avait un véritable réseau Buisson qui a promu l'école publique, l'école laïque de la République, et ça reste très très marqué dans l'histoire de l'école en France, de cette contribution sous la Troisième République de protestants notoires qui étaient essentiellement de sensibilité libérale.
Comment est-ce que les protestants accueillent ce processus de laïcisation de l'école ? Est-ce qu'ils sont tous d'un égal enthousiasme ?
Non, on a longtemps pensé que les protestants avaient remis le 1600 écoles protestantes qui existaient dans les années 1880 au réseau public. C'est vrai, les protestants ont remis leurs écoles au réseau public, mais ça ne s'est pas fait sans interrogation, sans hésitation, car les protestants, tout en étant ouverts à la laïcisation de l'école, par exemple, au début, souhaitaient que le catéchisme puisse être enseigné dans les locaux scolaires. En tout cas, ils étaient soucieux qu'on continue à prendre en compte la contribution religieuse à l'éducation. Et c'est là que André Encrevé a qualifié cette posture de laïcité protestante, montrant que les protestants français étaient certes favorables à la laïcisation de l'école, mais non à l'exclusion totale du religieux de l'éducation scolaire.
Il reste très vigilant par rapport à une laïcité athée.
Oui, la neutralité scolaire ne devait pas se traduire par la promotion de l'athéisme, et la laïcité n'a jamais été la promotion de l'athéisme, c'est la neutralité de l'État par rapport aux différentes visions religieuses et non religieuses de l'homme et du monde. Et donc les protestants étaient particulièrement vigilants sur cet aspect d'une stricte neutralité qui respectait à la fois les choix religieux et le choix de ne pas avoir de religion.
Quel a été le rôle de la Fédération protestante de l'enseignement qui a été fondée et présidée par Paul Ricoeur à ce niveau-là ?
La Fédération protestante de l'enseignement, elle a été créée en 1948 sous la présidence de Paul Ricoeur et a promu une voie originale, les protestants laïcs parce que chrétiens. Et donc la Fédération protestante de l'enseignement a défendu la laïcité de l'école, notamment au moment de la loi de Michel Debray 1959 en lien avec le Comité national d'action laïque, mais en même temps, la Fédération protestante de l'enseignement a été promotrice d'une laïcité ouverte. Et je voudrais citer un texte de 2011 où la Fédération protestante de l'enseignement réaffirme son double refus, refus de l'école cléricale et refus du sectarisme anti-religieux. Et donc, la Fédération protestante de l'enseignement soulignait en 2011 que dans une société déchristianisée, la laïcité ne correspond peut-être plus aux besoins des jeunes confrontés aux vides idéologiques, à la crise des valeurs, à la recherche des racines. Il fallait une laïcité ouverte à la prise en compte du fait religieux. De là, l'acceptation positive de la Fédération protestante dans l'enseignement, du rapport de Régis Debray sur l'enseignement des faits religieux à l'école publique laïque, de façon non confessionnelle, à travers des approches historiques, culturelles, informées par les résultats de la recherche. Il fallait parler du fait religieux à l'école publique laïque pour développer l'intelligence du phénomène religieux devant des classes d'élèves qui, de plus en plus, n'avaient aucune formation religieuse. On a même parlé d'analphabétisme religieux. Et les protestants ont été très, très favorables à le développement de l'enseignement des faits religieux à l'école publique laïque.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de l'investissement protestant en matière de pédagogie, d'éducation, de scolarité ?
Il reste en particulier une manifestation d'une prise en compte de l'œuvre scolaire et à travers la formation et les initiatives du Conseil scolaire de la Fédération protestante de France qui a développé quelques colloques pour réfléchir à la mission de ces écoles protestantes sous contrat. Quelques-unes qui existent encore. Et il y a également, ces dernières années, un souci du protestantisme évangélique qui a créé quelques écoles, comme le Collège Daniel à Guebwiller, et qui a formé une association promouvant l'enseignement scolaire protestant, l'Association des établissements scolaires protestants évangéliques francophones, et même un institut supérieur protestant Mathurin Cordier pour former les maîtres de ces écoles privées hors contrat. Et donc, ça fait partie du paysage protestant aujourd'hui. Peu d'établissements privés sous contrat et quelques établissements privés hors contrat, essentiellement de sensibilité protestante évangélique.
On voit que le souci des protestants accordé à l'enseignement du fait religieux à l'école est resté constant. C'est un enjeu qui ressort à notre époque contemporaine de manière très forte.
Oui, mais alors qu'au XIXe siècle, on cherchait à promouvoir encore même le catéchisme à l'école, aujourd'hui, c'est sous une forme d'une approche laïque des phénomènes religieux, passage d'une laïcité d'abstention à une laïcité d'intelligence, comme l'a très bien dit Régis Debray.
Jean-Paul Willem, je vous remercie pour vos éclairages. Rendez-vous la semaine prochaine, consacrée à la séparation de l'Église et de l'État en France, une grande question que nous allons encore approfondir ensemble. Merci. Au revoir.
Au revoir.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017. Vivre la fraternité.